DW. Pulsation.
Il s'appelle Boris Padenou, il est togolais et il est le directeur d'Aruka Studio, une entreprise basée à Lomé et qui réalise des films d'animation inspirés par les cultures africaines. On l'entendra dans un instant. À J-3 de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, c'est aussi l'occasion de revenir sur l'un des symboles phares du plus grand événement sportif du monde, les anneaux olympiques. Et puis en fin d'émission, un coup de projecteur sur le roi de la kora, Toumani Diabaté. Le musicien malien est décédé le 19 juillet dernier, trop jeune, il n'avait que 58 ans. Bonjour à toutes et à tous, c'est Constance Fischer au micro et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Ils sont connus dans le monde entier. Il s'agit de 5 anneaux vides entourés de 5 couleurs. Ils sont parfaitement symétriques et sont entrelacés de gauche à droite sur 2 niveaux. En haut, l'anneau bleu, le noir et le rouge. Puis en bas, le jaune et le vert. Le tout sur fond blanc, ce sont les anneaux olympiques. Selon la règle 8 de la charte olympique, les anneaux représentent l'union des 5 continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux Jeux olympiques. Quant aux 6 couleurs, en comptant le fond blanc, elles sont celles de tous les drapeaux du monde. Propriété du CIO, le Comité international olympique, le symbole olympique est soumis à des règles très strictes. On ne peut pas, par exemple, reproduire les anneaux sans accord préalable, sous peine de poursuite. Des normes graphiques spéciales ont été établies concernant la taille, la place et la couleur des anneaux. L'image de ces cercles colorés est donc très protégée et permet au CIO d'engendrer d'importantes rentrées d'argent. Pour la petite histoire, c'est Pierre de Coubertin, l'inventeur des jeux modernes, qui est aussi à l'origine du symbole des anneaux. Durant l'été 1914, on voit pour la première fois apparaître le drapeau olympique avec les anneaux comme symbole officiel du 20e congrès olympique de Paris. Mais il faudra attendre l'après-première guerre mondiale et l'Olympiade de 1920 à Anvers, en Belgique, pour que les anneaux soient présentés au grand public. Et depuis, ils sont l'identité visuelle incontournable des Jeux. Depuis 2015 aussi, le drapeau de l'équipe des réfugiés. À Paris, celle-ci comptera 36 athlètes de 11 pays dans 12 disciplines. Sur ma route du chanteur Black M qui sera en concert gratuit le 28 juillet sur l'île Saint-Denis à l'occasion des Jeux Olympiques. L'île Saint-Denis près de Paris qui accueille pendant toute la période la grande fan zone dédiée au sport et à la culture africaine.
Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma...
Bonjour Boris Padenou.
Bonjour madame.
D'abord, j'aimerais vous demander tout simplement de nous raconter un peu votre histoire personnelle et l'histoire de votre studio qui s'appelle donc Aruka Studio.
Ok, il y a un point de départ qui est que je suis né avec des capacités de faire des dessins. Et l'occasion s'est présentée en 2008. J'ai été sélectionné pour faire une formation en animation. Et c'est comme ça que je suis arrivé au métier du cinéma d'animation. Ensuite, à la fin de la formation, bon, je me suis mis à travailler. J'ai fait des bandes dessinées, j'ai travaillé pour des agences de communication pour rassembler les moyens jusqu'à ce qu'un jour je ne puisse mettre en place le studio aujourd'hui qui s'appelle Aruka Studio.
Pourquoi ce nom ? Est-ce que ça signifie quelque chose, Aruka ?
Oui, Aruka, ça signifie le sage, ça signifie aussi le vieil homme et ça signifie aussi Dieu dans la langue Ifé, qui est une langue de la région des plateaux.
Actuellement, vous travaillez avec combien de personnes dans ce studio ?
L'année dernière, on était 30, mais faute de moyens financiers, bon, on a dû se séparer de certains. Et donc, de 30, on est passé aujourd'hui à 13.
Donc, les temps sont durs, mais vous avez malgré tout beaucoup de projets. En ce moment, quel est votre projet phare?
Le projet phare sur lequel on travaille, c'est un projet de long métrage qui s'appelle Ricochet. C'est un film qui traite des problèmes liés au mariage dans lesquels les parents ne sont pas d'accord pour des raisons personnelles. Et c'est notre première expérience sur un projet de long métrage. Ça fait 2 ans qu'on a commencé. On a fait 80% du boulot. Là, maintenant, on est en train de travailler sur la fin, la post-production, et d'ici l'année prochaine, l'amener dans les salles de cinéma.
Alors, pourquoi c'est important pour vous de transmettre des histoires africaines? Parce que c'est vraiment au centre de votre démarche, hein?
Oui. Pour moi, c'est vraiment primordial parce que, en tant qu'artiste, j'ai eu un problème dès mes débuts qui était, selon l'histoire qu'on nous avait enseignée dans nos écoles en Afrique, que les Africains ne portaient pas de vêtements avant l'arrivée des Blancs et qu'on vivait tout nu, qu'on n'avait pas d'architecture et tout ça là. Et à mes débuts, comme je voulais faire des histoires authentiques sur l'Afrique, je parlais de quand j'avais déjà 16 ans, de 16 à 19 ans, je n'avais pas de repères en matière de vêtements, mais je ne pouvais pas faire des bandes dessinées où les gens étaient tout nus parce que ça pouvait choquer les gens. Donc ça m'empêchait de travailler. Et si je dessinais des Africains vivant dans des grandes maisons d'époque, ça aussi, ça aurait été faux au regard de l'histoire qu'on nous avait enseignée à l'école. Il a fallu, en grandissant, lire les œuvres des historiens du professeur Ibrahima Baba Kaké pour découvrir que l'Afrique était une grande civilisation et que même avant l'arrivée des Blancs, on avait déjà des vêtements brodés, les gens s'habillaient bien dans les grandes cités de Tombouctou, du Ghana et tout ça là. Donc, c'est à travers cette découverte que je me suis dit, ah, donc nous aussi, nous avons des histoires à raconter au reste du monde. On ne peut pas laisser les autres raconter notre histoire et mal la raconter. Il faudrait que le monde découvre l'Afrique dans son intimité et que ça passe par le regard et la bouche et l'expertise des Africains.
Et quand on dit studio d'animation, c'est vrai qu'on pense à dessin animé, donc où votre cible, ce sont les enfants, mais pas que si je vous comprends bien. Ce sont aussi les adultes, et d'ailleurs pas forcément que les adultes africains, mais sur tous les continents.
Oui, vous avez raison. Notre public s'étend déjà à toute la famille, et notre particularité, c'est que quand nous avons commencé nos projets même, on n'a pas commencé par des projets pour enfants. On a déjà commencé par des projets pour adultes, afin de ne pas toujours croire que le dessin animé, c'est pour les enfants. Et c'est aujourd'hui qu'on fait des projets orientés vers les enfants. Parce que aussi, sur les autres continents, tous les projets qui avaient déjà été faits étaient très orientés vers les enfants. Et la couverture au niveau des adolescents, des adultes, surtout, n'était pas très grande.
Tout à l'heure, vous avez parlé des difficultés financières et du fait que vous ayez dû réduire votre équipe. Quels sont les autres obstacles? Où est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des efforts entrepris par les autorités qui s'occupent de la culture et des formations?
Oui, je crois que vous l'avez dit. Là où moi, je souhaiterais qu'il y ait des efforts, c'est qu'il y ait plus d'investissement au niveau de la formation. Quand la main-d'œuvre qualifiée n'est pas suffisante, on fait des travaux qui s'arrêtent à mi-chemin. Donc aujourd'hui, les efforts doivent être faits. Il faut mettre en place des centres pour la formation en cinéma d'animation. Il faut former les gens en sachant qu'il y a des projets qui sont derrière et ces personnes seront motivées à être formées et à être employées directement ou indirectement.
Et vous qui avez tenu un crayon depuis tout petit, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui nous écoutent? Qu'est-ce qui rend le métier au sein d'un studio d'animation attractif? Il y a beaucoup de métiers représentés, j'imagine. Hein?
Oui, dans le cinéma d'animation, il y a au moins 12 métiers qui se complètent jusqu'à donner un résultat. Donc, moi, je dirais, la première attraction au niveau du cinéma d'animation, c'est de voir son rêve prendre vie. Et je le dis de façon littérale parce que vous imaginez le personnage au crayon et après, vous le voyez prendre vie, vous le voyez prendre la parole, vous le voyez exister. Et c'est une première satisfaction qui vous donne l'impression d'être un créateur. Ensuite, aujourd'hui, il y a le fait que le cinéma d'animation peut beaucoup rapporter, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais il faut y travailler. Mais je pense qu'il y a de l'espoir. Et l'autre côté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Le terrain est presque vierge et ceux qui voudront le faire doivent s'armer de beaucoup de courage, de stratégie pour s'implanter et arracher tout ce qu'il y a comme manne à gagner dans ce travail-là.
Merci à Boris Padenou, directeur du studio d'animation Aruka Studio, basé à Lomé.
Coup de projecteur.
Le journal britannique The Independent l'avait mis sur le podium des 5 meilleurs musiciens d'Afrique. Le chanteur et instrumentaliste malien Toumani Diabaté est décédé vendredi dernier à l'âge de 58 ans d'une courte maladie, a indiqué sa famille. Né en 1965 à Bamako, Toumani Diabaté était issu d'une famille de griots. Il était en particulier réputé pour sa maîtrise de la kora, cet instrument de musique à cordes originaire du Mali, mais que l'on trouve dans toute l'Afrique de l'Ouest. Toumani Diabaté a joué avec des grandes stars maliennes comme Balaké Sissoko ou Ali Farka Touré, mais aussi internationales comme la chanteuse islandaise Björk ou le chanteur français Mathieu Chédid, plus connu sous son nom de scène M. Après Cantelows au début de cette chronique, je vous propose d'écouter pour clore cette émission le titre Mani Toumani, un hommage au roi de la kora, écrit par M et où on peut entendre aussi la célèbre chanteuse malienne Fatoumata Diawara, ainsi que le fils de Toumani Diabaté, Sidiki. Cette émission, comme toutes les autres, est à retrouver sur notre site internet dw.com/français. Merci pour votre écoute et à la prochaine.
J'entends dans ta kora toute l'humilité à la verticale.